Oui.
On a abordé un peu la question donc économique. On a parlé d'interopérabilité. Je pense qu'on a compris vos positions dans le cadre de l'échange. Il reste une dernière thématique. On sait que vous devez y aller, mais qui nous apparaît important d'échanger rapidement. C'est qu'actuellement, du fait actuellement du logiciel libre, il y a des artistes qui ont pris le logiciel libre comme modèle, et qui ont mis à un moment donné leur art sous pas du logiciel libre, mais sous une licence. Il y en a d'autres, mais c'est celle-là dans le logiciel libre qui est préconisée, qui est la licence art libre. Ça fait tout un mouvement. Il y a énormément d'artistes maintenant, de musiciens qui mettent leurs œuvres sous licence art libre. Il y a tout un mouvement aussi maintenant de plasticiens. On sait qu'actuellement on est sur une crise de la culture, à forte raison quand actuellement les groupes de production sont devenus des grosses majors et détiennent maintenant des fois et des télés et des radios et des labels de production. Et qu'à ce moment-là, la Star Academy en est l'exemple de ce que ça peut donner comme culture. Je vais redonner la parole à Haricot. Voilà, qui a développé le site dans son association Dogmazic, justement pour qu'on puisse voir à un moment donné comment ça pourrait rebondir sur une application donc d'une politique municipale.
Alors bonsoir, donc Eric Aouanès, association musique libre dont la plateforme internet s'appelle dogmazic.net. Donc en fait, nous depuis 2004, on accueille sur notre plateforme des artistes qui ont choisi la gestion individuelle des droits d'auteur et qui essaient d'affirmer par là leur indépendance face à un système qui est doublement monopolistique, puisqu'on a un premier monopole qui est celui des maisons de disques, et notamment des quatre grandes majors. Et un autre monopole de fait, celui-là, celui de l'ASACEM. Ces musiciens donc se caractérisent par le fait qu'ils refusent de devenir sociétaires de l'ASACEM, ils refusent que l'on gère leurs droits à leur place, et ils accordent au public un droit d'échange et de partage sur leurs œuvres. Voilà, donc cette manière de gérer les droits d'auteur, ce qui prévaut, c'est la volonté d'indépendance face aux utilisations possibles des œuvres. Et c'est aussi de permettre au public de se substituer finalement à certains intermédiaires assez gourmands dans la chaîne musicale, qui justement, le public dans ce contexte-là devient promoteur des œuvres. Donc dans ce contexte-là, nous on a créé donc cette plateforme en 2004, et de fil en aiguille, on est arrivé sur plusieurs projets, dont le plus récent sont des bornes d'écoute, des téléchargements et de dépôt de musique libre, dont on vient d'installer un premier prototype dans une médiathèque dans la région bordelaise, puisque l'association a été créée à Bordeaux et à son siège social à Bordeaux. Voilà, donc on a développé un outil permettant un accès à ces artistes qui n'ont aucune représentation en radio, puisqu'on peut prendre des chiffres qui sont parlants. À l'heure actuelle, 90% de la programmation radiophonique, toute bande FM confondue, c'est moins de 3% des artistes en activité. De même, des artistes qui bénéficient de la manne des droits d'auteur, c'est à peu près 8% des sociétaires de l'ASACEM, ce qui est particulièrement faible. Donc voilà, nous on a vraiment une autre optique. Notre optique, c'est d'assurer de la visibilité au maximum à des artistes qui ne sont totalement invisibles. Et on est confronté à de nombreux écueils. Il y a des lois, par exemple, qui sont en cours de réflexion sur le spectacle vivant, dont l'objectif semble louable, qui est par exemple de permettre aux professionnels de gagner de l'argent en faisant des concerts. Mais cette loi-là, si elle se met en place, elle va interdire l'accès aux salles de spectacle aux amateurs et aux artistes en devenir. Donc sur ce plan-là, par exemple, quelle est votre position sur cette désertification de l'espace de concert, du live, au profit d'une microscopique minorité de gens qui gagnent déjà par ailleurs très bien leur vie en faisant de la musique, puisqu'ils sont appuyés par tous les comment dire, tout l'arsenal médiatique des maisons de disques qui en France ont un monopole qui est à l'échelle européenne, voire mondiale, plus dominant encore que dans d'autres pays.
En fait, on retrouve dans tout ce que vous dites là un peu ce qu'on évoquait au début de l'émission et du débat, c'est-à-dire finalement que ces questions, quelque part, Internet et cette nouvelle technologie agissent un peu comme un miroir grossissant de la vie telle qu'elle commençait à s'organiser. C'est-à-dire que l'effet, on a vraiment là soit le choix de voir des mécanismes de concentration et finalement d'homogénéisation globales qui vont s'accélérer grâce à la technologie, ou au contraire, si on réussit à utiliser cette technologie à l'inverse, de pouvoir modifier fondamentalement la façon dont les choses sont en train de tendre. Et donc sur les questions culturelles, j'ai utilisé cette expression dans un meeting qu'on a fait la semaine passée, pour dire que nous, on voulait, en tant qu'écologistes, au moins autant favoriser le off que le in. Hein, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui est création culturelle, tout ce qui ne rentre pas dans les réseaux les plus organisés, etc., qui sont ceux qui sont les plus aidés, les plus visibles, etc., tout ça, on permette son développement, son éclosion dans l'état d'esprit de la diversité telle que je l'évoquais. Donc forcément, ça nous amène à avoir beaucoup de sympathie pour tout ce que vous avez évoqué. Et donc de regarder comment on peut faire en sorte que les outils dont on peut disposer au niveau municipal, là encore, puissent venir aider. Et on a parlé des bibliothèques, on a parlé des médiathèques. Une idée aussi, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire une nuit blanche du libre? C'est-à-dire quelque part, une nuit blanche dans laquelle on est l'ensemble des artistes qui participent à cette nuit blanche, soit dans le domaine du livre. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est faisable et si c'est réaliste, mais on a une capacité au travers de ce type d'initiative d'attirer l'attention, de montrer, de sensibiliser, d'aider un certain nombre d'artistes. Donc moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut, en tant que municipalité, intervenir. Mais peut-être que aussi bien Loïc que Martine ont des idées complémentaires, parce que moi, je vais devoir partir. Là, j'ai une réunion parce que la campagne continue.
Juste apporter une précision, peut-être qu'à un moment donné, Frédéric vous remplacera quand vous devrez partir, il est prêt. C'est la question, à un moment donné, de la direction des affaires culturelles, qui finance au moins sur Paris un certain nombre de choses et d'articles, de spectacles vivants, voire même des fois de production, et qu'il y a tout un nombre de moyens qui sont mis, notamment à travers des centres d'animation où il y a des spectacles, où à un moment donné, il y a de la production musicale. Il se trouve que c'est vrai qu'il y a une complexité, mais en même temps, là, il y a des artistes, de notre point de vue, qui demandent d'être soutenus. Et à un moment donné, c'est de voir à un moment donné comment la direction des affaires culturelles, dans ses choix de financement, peut à un moment donné avoir comme critère ou non quel est le devenir de l'œuvre. Est-ce que cette œuvre que nous finançons sera partageable ou non partageable? Est-ce qu'à un moment donné, sur certaines productions musicales ou d'écriture, à un moment donné, on peut encourager ces artistes-là, car à un moment donné, leurs choix qu'ils ont faits les obligent à être dans des circuits économiques, et en même temps, le logiciel libre n'est pas incompatible d'économique, où à un moment donné, il faut qu'il y ait des scènes pour qu'ils aient du public et qu'ils rencontrent du public et qu'ils vivent de leurs concerts, ou à un moment donné, que sur leur spectacle, ils puissent avoir une part de subvention. Alors c'est vrai qu'il y a l'État, mais on sait actuellement sur la culture que la direction des affaires culturelles de Paris est quand même très conséquente.
Très conséquente en moyens, vous voulez dire?
En moyens,
voilà,
en lieu, qu'on voit les lieux qui viennent
c'est...
d'être, qu'on voit le nouveau lieu qui vient d'être inauguré dans le 19e, l'ancienne pompe funèbre, qu'on regarde la maison des
métallos, inaugurer,
on voit qu'il y a quand même
des moyens.
Ah
oui, non,
des
c'est,
moyens.
C'est qui est des moyens, c'est évident. Mais faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, le off soit au moins autant aidé que le in, c'est un combat de tous les jours. Hein. La logique qui prévaut aujourd'hui n'est pas franchement celle-là. Donc, il y a un aspect un petit peu. J'essaie de ne pas dire de gros mots trop, mais comment dire, la lumière attire beaucoup, quoi. Hein, et donc, il y a tentative d'être beaucoup quand même dans tout ce qui est le plus visible, le plus, je ne veux pas dire paillette parce que c'est trop connoté, mais enfin quand même, et donc c'est vrai que là-dessus, il y a besoin d'une réorientation et que c'est un véritable combat, et c'est des propositions que nous on porte dans notre campagne électorale qui ne portent pas que simplement sur l'art libre, mais globalement de toute façon sur la culture, parce qu'il y a vraiment des changements qui sont nécessaires dans la politique culturelle de la ville. Ça, c'est pour nous une évidence. Qu'on a fortement ressenti pendant cette mandature municipale. Bon, faut vraiment que je vous laisse, hein, mais vous continuez, parce qu'il y a des bien meilleurs que moi qui peuvent répondre aux questions. Merci beaucoup hein, pour votre appui et vos questions.
On va continuer. Rico, est-ce que tu veux continuer à développer un point de vue autour de notre expérience?
Bah, je peux vous continuer peut-être à parler de notre projet de borne, parce que c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui s'est passé assez rapidement. Et justement, c'est une demande de la part des médiathèques, puisque c'est suite à des discussions avec des discothécaires, notamment de l'ACIM, hein, qui est une association qui regroupe ces professions-là, qu'a germé cette idée-là. Et donc, nous, on est parti sur l'idée de créer une interface. Justement, on utilise du logiciel libre. Enfin, je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, pour mettre en place le logiciel de cette borne. On a vraiment senti qu'il y avait une demande. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti dans ce projet-là. Donc, justement, ça rejoint un petit peu la question que vous évoquiez sur les bibliothèques tout à l'heure. Il y a effectivement des solutions qui se mettent en place, et celle-ci, c'est une solution finalement qui correspond bien à leur démarche, qui est de rendre visible la culture. Et là, on a en plus la chance de rendre visible une culture quasiment en direct, puisque chaque jour, des nouveaux morceaux sont rapatriés sur ces bornes-là. Ce sont les artistes qui s'inscrivent sur notre plateforme. Aujourd'hui, à peu près 20 000 titres, mais tous les jours, 4 à 10 artistes nouveaux qui s'inscrivent. Ça rend aussi visible des labels. Et aussi, sur le plan territorial, ça met en valeur les artistes qui sont dans une géographie proche du lieu d'implantation des bornes. Donc on a vraiment aussi ce souci-là. Et ça, c'est suite à des discussions avec ces professionnels-là. Donc quelque part, nous, ça nous rassure finalement que des institutions fassent confiance finalement à une petite association au départ comme nous et lui permette de réaliser sans aucun financement ce projet-là. C'est vraiment la municipalité et la médiathèque de cette commune qui a pris le risque. Et ce risque-là, c'est pour l'instant une petite première, mais nous espérons que d'autres municipalités prennent du risque, parce que je pense que dans tout le fond de ce débat, il y a cette prise de risque. Pourquoi choisir du logiciel libre? C'est prendre un risque, effectivement. Effectivement, il y a une certaine époque, on pouvait se demander est-ce que c'est fiable? Mais maintenant, bon, on est arrivé quand même à un certain degré de reconnaissance qui fait que choisir du propriétaire, ça peut être plus problématique que de choisir du libre. Donc je pense qu'il y a vraiment à insister là-dessus. Et pour ce qui est de la culture libre, c'est la même chose. Est-ce que c'est de la musique de qualité? Il faut l'écouter pour le savoir.
Et c'est là où moi je pense que la force d'une municipalité peut vraiment aider dans cela. Ça veut dire qu'on reprend un peu le projet d'éducation populaire initial, hein, du fondement des bibliothèques, qui était d'avoir une réflexion sur un accès à la culture pour tous, qui était de permettre à ce moment-là que ça soit accessible et que ça ne soit pas réservé justement que ça soit pas justement privilégier une classe sociale. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, les médiathèques et les bibliothèques peuvent justement, dans ce monde-là, avoir toute leur place. Parce que justement, on a besoin d'avoir des médiateurs, on a besoin d'avoir des gens qui fassent un travail de catalogage, qui fassent découvrir des artistes. Et on a à foison qu'on va sur le site Dogmatic, on voit qu'il y a une profusion de musique et qu'on a même du mal justement à voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et je crois réellement que, en tout cas, ça pourrait être une des attentes qu'on aurait vis-à-vis de la ville de Paris, c'est qu'elle commence justement à faire travailler justement ses fonctionnaires et que ça puisse devenir à terme un métier sur être, à un moment donné, être passeur de cette nouvelle culture.
Un mot, je trouve, justement en tant qu'ancienne bibliothécaire, je trouve ce projet hyper intéressant.
Merci.
Non, mais c'est vrai, parce que en plus, ça me semble assez simple, comme ça, comme principe. Et en plus, pouvant intéresser beaucoup de personnes qui viennent en bibliothèque, pas forcément d'ailleurs qu'empruntent, mais de personnes qui passent en bibliothèque. Donc je trouve que c'est vraiment un apport superbe. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait intégrer cette proposition au niveau de Paris, d'autant que si ça existe dans une commune, il suffit de demander que des responsables de la direction de la lecture publique de la ville, parce qu'elle s'occupe des médiathèques même, pour la partie musique, aille voir cette expérience sur place et voir comment la reprendre à Paris, la développer à Paris. Et c'est vrai que si, si Paris la développe, ça donnera quand même une audience.
À titre indicatif, nous, sur ce projet-là, on est en phase d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on est, on est capable, d'ici très peu de temps, de produire en série les bornes qui sont du mobilier, on va dire, robuste, hein, c'est du métal, avec un très beau design et avec dedans du logiciel libre, notamment du XML pour l'interface.
Si on a abordé la problématique culture en l'effleurant, parce que je pense qu'il y a aussi tout le statut des artistes plasticiens, et à un moment donné d'avoir une vraie réflexion, à un moment donné, comment on soutient les plasticiens et les artistes qui s'engagent dans les arts plastiques, à le voir. On l'a dit, on verra plus tard. À un moment donné, vu qu'on a dit que ça c'était une première rencontre et qu'on aura d'autres rencontres dans les municipales à un moment donné sur le financement de la culture. Donc on a parlé bibliothèque, éducation populaire. Je pense que ce serait bien qu'on aborde maintenant la thématique éducation et notamment qu'on voit votre point de vue notamment vis-à-vis des écoles primaires et notamment de l'informatisation des écoles primaires qui, à l'heure actuelle, sont majoritairement, comme vous l'aviez dit, avec des logiciels propriétaires. Vous avez dit, c'est dommage que des enfants, la première chose qu'ils rencontrent, c'est Microsoft. Et pour nous, là, on est sur un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui se complexifie. On voit qu'on est sur une croissance exponentielle de l'humanité, mais également des outils technologiques. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs. Et on rentre sur des objets techniques qui deviennent de plus en plus complexes, parce que si avant, quand on apprenait l'électronique, on avait des bases pour comprendre ce qui se passait, on a des objets qui deviennent tellement complexes à l'heure actuelle qu'on a des difficultés pour une personne qui voudrait apprendre à comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Et le logiciel libre, outre qu'il y ait des logiciels, des applications, et que ça marche et que ça peut réduire un coût, a surtout un avantage, c'est que pour des enfants qui sont curieux, qui vont grandir, ils ont accès à quelque chose qui est magnifique, qui est le code. Ça veut dire qu'ils peuvent comprendre à un moment donné comment les logiciels ont été fabriqués. Ça veut dire qu'ils ont un objet de connaissance qui peut leur être proposé. Et il y a peut-être une autre façon d'initier des enfants. On n'initie pas à l'utilisation de logiciels, mais on initie des enfants à un moment donné à comment la connaissance se fabrique, comment un logiciel se fabrique. Et peut-être, en tout cas, ça, on verra dans l'éducation populaire, mais il y a des projets aussi sur ça, comment on essaie de comprendre une société qui change et où la science est de plus en plus importante. Quand on a accueilli les faucheurs OGM, on a vu qu'ils étaient sur une même problématique, c'est-à-dire la compréhension à un moment donné de savoir comment trier des graines. Qu'est-ce que c'est qu'une graine? Et on voit que finalement, la mise en place de toutes ces techniques, s'il n'y a pas des lieux d'apprentissage, et notamment l'école où à un moment donné on apprend à trier des graines pour savoir ce que c'est ce phénomène-là, où on apprend à un moment donné à voir ce qu'est un logiciel, eh ben, on perd quelque chose qui sera formidablement important demain dans le cadre d'une phénoménologie de la connaissance et de notre monde immédiat. Donc concrètement, dans les écoles, est-ce que vous pensez qu'on est à même justement de passer justement des ordinateurs équipés en logiciel libre, parce que ça dépend de votre prérogative, et d'encourager des logiciels éducatifs, et il y en a beaucoup actuellement dans le cadre des logiciels libres.
Dans le cadre du passage au libre de la ville de Paris et des interfaces vers le public, il y a évidemment effectivement les écoles primaires, préélémentaires, primaires, et aussi les collèges, puisque c'est aussi le département. Donc il y a une vraie volonté effectivement de passer au libre tous ces équipements dans les établissements scolaires. Pour ce qui est des programmes, par exemple aller analyser les codes ou choses comme ça, là ce n'est pas une prérogative de la ville, c'est l'éducation nationale qui peut entrer ça dans ses programmes ou pas. Il y en a eu, il y en a plus, c'est revenu, c'est reparti, je ne sais plus où ça en est maintenant. Mais effectivement, à partir du moment où on a du logiciel libre dans les établissements scolaires, c'est quelque chose qui est faisable, qui n'est pas forcément faisable avec d'autres systèmes. Mais par contre, il y a d'autres endroits où c'est plus facile et qui correspondent plus à l'éducation populaire. Ce sont les autres lieux d'accès public à l'Internet où là, on participe aussi à l'éducation des habitants de Paris, jeunes ou moins jeunes, et où là également il y a un accompagnement vers le libre avec une sensibilisation sur l'optique du libre. À la fois ça et en même temps, comme ce que tu le disais tout à l'heure, les choses se complexifient et en même temps, petit à petit, le problème n'est plus vraiment l'outil. L'enjeu est plutôt, sont plutôt les usages, on en a parlé tout à l'heure avec, avec la fibre. Et lorsque dans les dispositifs d'enseignement, que ce soit scolaire ou extrascolaire, on agit plus sur l'apprentissage des pratiques et des usages, c'est-à-dire pas comment utiliser tel outil, mais plutôt qu'est-ce qu'on va en faire et dans quel but, avec quelle finalité. Finalement, propriétaire, pas propriétaire, libre ou pas libre, c'est pas tellement un problème, c'est ce qui facilite. Quand on va sur un niveau un petit peu plus haut comme ça, c'est ce qui facilite le passage au libre. C'est comme dans une grosse ville, hein, l'éducation nationale ne peut pas changer comme ça. La ville de Paris ne peut pas décréter que demain tout passe en libre. C'est quelque chose qui s'accompagne, ça se fait petit à petit. Mais ce passage à la pratique et à l'usage plutôt qu'à l'outil seulement aide à ça. Et en même temps à comprendre bien les enjeux.
Il est clair en tout cas que l'équipement qui est sous sa maîtrise et les choix politiques qui peuvent être mis en termes d'équipement peuvent à un moment donné amener à un dialogue et avec l'éducation nationale et avec les équipes enseignantes.
Oui, tout à fait, ça ne peut pas se faire sans dialogue. Je vais répéter, mais le projet est de mettre les logiciels libres dans les établissements scolaires et dans les autres lieux d'accès numérique sur la ville. Donc ça favorise forcément.
Par expérience, je pense qu'on peut un peu accélérer des fois la marche avec le soutien des fédérations de parents d'élèves. Je pense que de ce point de vue, si vous, acteurs justement du logiciel libre, vous pouviez entrer en contact avec au moins la FCPE, peut-être aussi la PEP, je ne sais pas quelle est son approche, et de manière à les convaincre eux aussi. Je pense que dans ce cas-là, le travail en commun des acteurs du libre, des élus et de la Fédération des parents d'élèves, y compris des associations indépendantes sur certaines écoles, ça permettrait, et peut-être aussi d'ailleurs des syndicats enseignants, ça permettrait dans un travail commun d'aller de manière plus tranquille et plus convaincue, d'aller un peu plus vite sur ce passage. Parce que l'expérience démontre, quand les parents d'élèves se mobilisent, ça fait bouger quand même beaucoup de choses.
Juste une petite question en écoutant ton intervention tout à l'heure. Tu as parlé d'autres lieux où jeunes et moins jeunes.
Oui, c'était pour préciser ces lieux-là, c'est ça ?
Voilà, oui.
Ben, il s'agit notamment des espaces publics numériques, mais également, je crois que Denis Baupin l'a dit tout à l'heure aussi, l'équipement donc collectif, y compris dans les foyers, par exemple les foyers de personnes âgées ou les foyers de travailleurs migrants, c'est-à-dire des lieux où des gens se rencontrent et où il peut y avoir un accompagnement pour une utilisation de l'informatique collective.
D'ailleurs, je pense qu'un des gros regrets de la dernière mandature, là, c'est l'usage qui a été fait des EPN, qui a été très réduit par rapport à ce que ça pourrait être. Et les EPN, pour nous, dans la prochaine mandature, ça doit être un des lieux de la construction de la mise en lien des populations avec les associations. Il y a vraiment là un lieu pour que vraiment l'informatique soit un usage et qu'on enseigne des usages dans ces lieux-là.
Très légèrement concret, j'ai essayé hier de convaincre Jean-Louis Huissica, qui sera vraisemblablement le prochain adjoint aux nouvelles technologies de Delanoë s'il était élu, de nous rejoindre ce soir, mais il était pris parce qu'il avait une réunion de même nature, pas de même nature que celle que nous avons ce soir, de nature électorale, dans le 12e où il se présente au sein de la liste du PS dans le 12e.
Est-ce qu'il abandonne sa prérogative de vice-président d'Iliade et de Free ?
Il a déjà abandonné sa prérogative de vice-président au sein d'Iliade, mais son discours, quand je l'ai eu curieusement pendant 10 petites minutes hier au téléphone, son discours c'était « Moi je suis un pragmatique ». Et c'était limite si l'adjectif cynique face aux enjeux de pouvoir ne traînait pas en arrière-plan.
Je voudrais qu'on revienne en tout cas sur le débat et sur une différence peut-être qu'on a entre usages. Quand sur le logiciel libre, par rapport à l'objet d'éducation populaire et de dire qu'à l'heure actuelle, on rentre dans une époque où l'égalité de la compréhension des enjeux scientifiques en tant que citoyen, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit formé pour comprendre, pour élire nos bons députés, pour qu'ils puissent comprendre tous ces sujets complexes, comme on l'a vu, les OGM, les brevets pharmaceutiques. On entre actuellement dans une problématique où, pour devenir citoyen et comprendre et intellectuellement et pouvoir voter, agir, il faut à un moment donné qu'il y ait des espaces où on soit formé. Et je pense que si on se réduit seulement dans les EPN, les écoles, ce n'est pas notre prérogative, mais on sait qu'au moins sur l'éducation populaire et sur les soutiens que peut apporter la ville de Paris à des associations ou à des espaces qui font de l'éducation populaire, si on est juste sur des usages et qu'à un moment donné, il n'y a pas des espaces de réflexion où on essaye d'entrevoir qu'est-ce que c'est qu'un code informatique, qu'est-ce que c'est qu'un exécutable, on va louper quelque chose. Dernièrement, on a accueilli un artiste qui est à la fois un théoricien qui a mené une expérience au Brésil sur favoriser à un moment donné que le hardware et d'une réflexion d'hardware libre puisse avoir lieu. Et pour lui, quand on lui présentait des vieux ordinateurs et notamment des cartes mères de Pentium 133, il disait attention, c'est du savoir gelé, ne le jetez pas. Parce que ces objets techniques-là, si vous les jetez, je pourrais plus apprendre aux enfants du Brésil qu'est-ce que c'est qu'une carte mère, parce que ça va devenir un tel degré de complexité embarquée que j'aurais plus des espaces d'apprentissage pour à un moment donné faire comprendre à un moment donné ce que c'est que le hardware. Et moi, je crois que le loupé des EPN, c'est pas qu'ils soient la plupart sous Microsoft, c'est que les personnes qui sont dans ces postes-là ne sont pas, par leur formation, en tout cas c'est ce qu'on a constaté, sont consacrés sur les usages. Ils ne se sont pas consacrés sur quel est le vecteur d'éducation populaire il pouvait être de compréhension actuellement des nouvelles technologies, de l'informatique et de la science.
Alors d'abord, il ne faut pas tout à fait généraliser. Je pense qu'il y a des animateurs qui sont tout à fait à même, des animateurs dans les espaces multimédia qui sont tout à fait à même.
C'est pour ça que j'ai rectifié, je dis qu'ils sont consacrés sur les usages. Voilà.
Alors, à l'inverse de ce que je viens de dire, on peut se féliciter qu'ils arrivent jusqu'aux usages, parce que souvent dans les EPN, on peut aussi se contenter des outils ou des pratiques simplement, c'est-à-dire sans une finalité. On partage complètement la même idée. S'il y a un lieu où peut se faire cette réflexion, qui à mon avis est de sens culture, scientifique et technique, sur le numérique, c'est dans les espaces publics numériques. Qui d'autre va le faire que des services publics? Et c'est ce qui permettra que les citoyens se saisissent des débats dont on a parlé. On parlait des OGM, mais les brevets logiciels sont des débats qui reviennent de manière récurrente, ou la biométrie, ou d'autres enjeux comme ça sur les libertés numériques. C'est pas l'objet ce soir, mais peut-être sur les puces RFID ou des choses comme ça. Il y a des vrais enjeux de société, et si ces amorces de débat ne se font pas dans les espaces multimédia, où se feront-ils?
Non, mais je pense qu'il ne faut pas oublier un autre espace, parce que maintenant, ça y est, chaque arrondissement en possède, ce sont les maisons des associations. Parce qu'en plus, il y a des postes mis à la disposition des associations, des membres des associations, des postes informatiques. Donc je crois que c'est des lieux qu'il faudrait investir, effectivement, pousser au débat dans ces lieux, puisque de fait, ça permet d'avoir des relais ensuite, de manière plus large, au travers des membres des associations qui fréquentent ces maisons. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à comment pouvoir organiser donc ce type de débat autour de la question que tu soulèves, aussi dans ces lieux, qui ont quand même en plus des petites salles, donc il peut y avoir des réunions. Et je crois qu'il faudrait essayer de voir, parce que je pense qu'il y a plus de maisons des associations peut-être que d'espaces numériques.
Il y a 19 EPN, alors s'il y a 20 arrondissements...
Et il y a 21 maisons des associations.
Il y a aussi les régies de quartier, il y a aussi les centres d'animation. Mm-hmm.
Qui sont parfois équipés également en informatique, les centres d'animation. Mm-hmm. Mais il y a également, dans cet ordre d'idées-là, également les écoles, parce qu'elles-mêmes peuvent être ouvertes. Ça veut dire qu'on a là... Des salles informatiques qui ne sont pas utilisées par exemple les mercredis. Bon, quelquefois elles sont utilisées par certaines associations, mais il y a là encore un potentiel sur la ville.
Je pense qu'on arrive au terme de notre débat, et la dernière question un peu qu'on posait à un moment donné à la fin, c'est à un moment donné comment le travail mené par ces associations justement qui travaillent à promouvoir le logiciel libre ou à être acteur d'une médiation justement en tant que citoyen sur ces sujets-là, comment donner, peuvent-ils être soutenus par la ville de Paris et comment l'expertise qu'elle dégage peut être consultée par la ville de Paris. On a vu tout à l'heure qu'on a abordé à un moment donné les aspects réseau ADSL. On a entendu germer l'idée de ça serait pas mal qu'il y ait une commission finalement qui puisse réunir les acteurs et qui puisse permettre à l'élu d'avoir un tour d'horizon de ces problèmes-là, de façon à ce qu'ils ne soient pas pris dans des débats d'experts ou d'influence de lobbying. Donc, à un moment donné, comment la ville de Paris envisage de soutenir tous ces acteurs nouveaux de l'éducation populaire?
C'est encore moi. Je crois d'abord que la place des associations dans la gestion et les propositions, les initiatives pour la commune, ça entre tout à fait dans l'optique de démocratie participative que les Verts développent, et pas que pour la culture numérique, pas que pour l'informatique. C'est une vraie volonté d'associer les associations, pas que les associations, mais notamment les associations. Donc ça se fait en essayant de donner plus de place aux associations dans les conseils de quartier ou d'autres instances de participation locale. Par ailleurs, il y a bien évidemment des militants des Verts qui sont également militants dans d'autres associations. Donc les échanges se font naturellement dans ce sens-là. Et dans les associations proches du libre ou culture libre, les Verts, ils sont, j'ai envie de dire, presque naturellement, comme le disait Denis Baupin tout à l'heure, il y a des valeurs un peu communes qui rassemblent ces deux mondes. Voilà, après, je crois que Denis Baupin l'a dit tout à l'heure aussi, il attend aussi des experts du monde associatif de titiller et de continuer à suivre un peu les projets et à interpeller les élus pour que les chantiers se fassent conformément aux vœux et à ce qui a été décidé au départ.
On arrive à la conclusion, ça je propose de redonner un peu la parole à chaque intervenant, puis après à la salle, et puis de clôturer notre rencontre.
Je voulais apprendre très précisément de suivre sur ce que tu disais sur la présence des associations et sur la façon d'interagir avec les experts issus du milieu associatif. Moi je suis président d'une association, FDN, qui œuvre essentiellement dans la partie réseau, internet, IP. Ça fait un peu plus de 15 ans que l'association existe, elle a toujours été à Paris. Et à chaque fois qu'il y a eu une initiative de la ville dans un domaine touchant au numérique, alors c'est plutôt récent, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait une très belle ignorance municipale. Je l'ai toujours découvert dans la presse, c'est-à-dire bien, bien, bien longtemps après que le dossier ait été complètement clos, et que tout ce qui avait une chance d'être mieux fait, c'était bouclé, il n'y avait plus rien à toucher. Que ce soit le Wi-Fi, que ce soit les ouvertures pour la fibre avec Free, que ce soit tout ce qui était initiative municipale en matière de réseau, qui est le domaine qui m'intéresse, je l'ai toujours, moi, appris par la presse. Donc je sais qu'il y a à l'heure actuelle une méconnaissance de la part des élus, et pour le coup de tous bords, c'est-à-dire la mandature précédente, c'était pas mieux. La mandature actuelle, moi, m'a pas fait l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute. Alors, c'est peut-être pas vrai pour toutes les associations. Je crois que mes collègues de Bellinux sont un petit peu plus écoutés qu'ils ne l'étaient avant. Vous arrivez à discuter avec la mairie. Mais voilà, donc j'ai vraiment ce sentiment qu'à l'heure actuelle, ce lien n'existe pas.
Non, juste un élément de réponse, quand on dit que Bellinux est plus écouté sur la mairie. C'est juste qu'on a eu, à un moment donné, la chance, dans une direction qui n'était absolument pas la direction de nouvelles technologies, d'avoir un dialogue avec la mission intégration sur un problème qu'ils avaient, parce que ce n'était pas fait par la ville de Paris, c'est-à-dire l'informatisation des foyers de travailleurs migrants, et d'avoir une réflexion, à un moment donné, sur la mise en réseau des foyers. Et c'est parce qu'on est arrivé avec une solution qui est grosso modo qui avait une économie de coût, parce qu'on récupérait du matériel et qu'on remettait des logiciels libres, qu'on a pu faire ce travail. Maintenant, la compréhension qu'on a eue de la mission intégration sur la ville de Paris et le travail fait avec eux de ce qu'ils en ont compris, là par contre, ça nous a impressionné parce qu'on a vu des gens qui ont compris dans les foyers de travailleurs migrants, un, que c'était possible d'initier des gens qui n'avaient jamais touché un ordinateur à du logiciel libre, ce qui est souvent un argument qui est donné par les open en disant je mets du Microsoft parce que les gens ne connaissent pas le logiciel libre, et en même temps de pouvoir expérimenter. Donc on est à une phase où c'est parce qu'on arrivait en prenant un problème qu'on a été écouté. C'est pas parce qu'on avait une solution à donner.
Moi, mon expérience, c'est que le monde associatif à Paris, c'est peut-être parce que la machine municipale est trop grosse et le monde associatif trop nombreux. Mais je crois que la mairie ne connaît pas la richesse du monde associatif parisien. Il y a des associations sur à peu près tout et qui très souvent, enfin ça c'est quelque chose que les Verts connaissent assez dans le monde écologique. Sur les écolos, c'est essentiellement des associations où il y en a une quantité astronomique, et en général quand quelqu'un est compétent sur une question écologique très complexe, deux fois sur trois il est sorti de l'association qui bosse sur le dossier depuis 15 ans. En matière de politique municipale, il y a des vraies lacunes. Alors je sais que c'est vrai en réseau, je sais que c'est vrai en informatique, parce que j'œuvre aussi beaucoup dans le monde du logiciel libre, et je soupçonne que ce soit vrai dans de très 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 nombreux autres domaines. Donc j'ai très peur que la déclaration de Denis Baupin sur « j'ai besoin des experts », je ne sais pas si elle restera lettre morte ou pas. Je peux dire que sur la mandature actuelle, elle est restée. Je ne sais pas si c'est...
Il faut lire plus de vers.
Non, mais
ça veut dire que ces vœux-là d'associer plus largement les citoyens, les associations aux décisions et à leur conduite, elle a toute sa place.
D'autant qu'il y a un aspect où, en tant que vert, on se sent très très proche du logiciel libre, c'est vraiment sur le côté transverse de la logique du libre, qui finalement va toucher à beaucoup de domaines des différentes activités. Et nous, c'est la difficulté qu'on a en ayant un raisonnement sur la préservation de l'environnement ou la mise en place de ces questions. Finalement, mettre des ampoules basse conso dans les établissements publics, c'est un peu la même question que mettre des logiciels libres dans tous les ordinateurs partout. Donc c'est une sensibilisation, et c'est pour ça que derrière toutes nos démarches de démocratie participative vont dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas être, l'élu, même s'il est très très fort dans son domaine, ne peut pas tout savoir, et il doit travailler avec les gens qui sont là et qui travaillent sur le sujet.
Moi je dirais quand même un mot, c'est je pense que quand même on a été un tout petit peu faible, on peut reconnaître ça. C'est-à-dire ce qu'a dit Denis tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est arrivé, quand la gauche est arrivée à la municipalité en 2009, il n'y avait tout simplement pas d'informatique dans la ville de Paris. C'était dramatique, il n'y avait pas de câblage, il n'y avait rien, il y avait un poste d'ordinateur vu comme une machine à écrire par bureau d'élu, c'est la secrétaire qui l'avait, il était hors de question que quelqu'un d'autre l'ait. Donc c'est vrai qu'on s'est plus focalisé sur le rattrapage de la non-informatisation de la mairie, c'est indéniable, c'est-à-dire que ce soit en termes de matériel qu'en termes de réseau, plus que sur comment. Et puis c'est vrai que il y a 7 ans, ça a l'air pas si loin que ça, mais en fait c'est immense au niveau du logiciel libre. C'est vrai que il y a 7 ans, il y avait quelques pionniers chez les Verts sur la question, mais le reste, la preuve, c'est que nos locaux nationaux les espaces, les lieux, n'étaient pas équipés en logiciel libre il y a 7 ans. Maintenant, je pense que la quasi-totalité des locaux verts sont équipés avec du matériel, avec des logiciels libres, je veux dire. Il y a eu toute une campagne depuis 3 ans maintenant, sur ce que les élus verts impulsent l'équipement en logiciel libre, qu'eux-mêmes portent le logiciel libre. Donc je crois qu'on est là maintenant, c'est vrai que si on n'a pas cette politique transversale dans nos collectivités la fois prochaine, vous pourrez vraiment nous taper dessus. Mais là, je pense que c'est vrai que, on a franchi le pas quand même sur le passage à l'acte, disons, il y a 2 ans. Donc finalement, on s'est plus concentré sur notre passage à l'acte. Malheureusement, il y a des communes où il y a des verts. Par exemple, Brest est une commune bien connue. Il y a un adjoint vert qui a beaucoup fait pour le logiciel libre à Brest. Bon, il y a d'autres communes. Je crois qu'il faut, je ne sais pas si effectivement, on va dire qu'il était prévu de nouveau un adjoint aux nouvelles technologies dans la prochaine mandature. Je crois qu'effectivement, il faut peut-être un adjoint qui soit un petit peu plus dynamique, et que on réintègre une vision transversale du sujet. C'est pas que l'adjoint, ça doit être partout, dans toutes les directions et dans et dans tous les équipements.
Ça, pour illustrer un peu enfin, le mouvement qui a réalisé, en tout cas les verts à l'intérieur du mouvement, nous, tout ce qu'on vous raconte là, c'est des choses qui sont actées autant au niveau national qu'au niveau local. Et quand on a, par exemple, lancé la campagne pour les municipales à Paris, on a dit que ça serait une éco-campagne, donc elle serait respectueuse dans l'environnement, qu'on utiliserait du papier recyclé, voilà, etc. Et on a dit, dans le cadre de l'éco-campagne, on met aussi le fait que tout ce qu'on va faire sera en libre. Donc notre site internet est en libre, on a travaillé avec des associations du livre pour le mettre en place, on essaie de promouvoir la musique libre, l'art libre, dessus, d'expliquer ces thématiques-là et de sensibiliser le public, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est difficile à saisir encore pour le plus grand public.
C'est des problématiques très complexes et on a vu avec l'infrastructure du réseau, avec l'infrastructure de l'eau, que c'est des contraintes qu'on s'impose et qui vont ensuite s'être imposées sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Donc il faudrait, lorsque la prise de décision est faite, qu'on ne s'arrête pas seulement aux avantages et aux inconvénients à court terme, mais qu'on regarde ceux à moyen et à long terme. Et qu'on prenne la décision en connaissance de cause.
Bon, bah, je vais reprendre un de nos slogans à l'époque de la loi d'AFSI. Nous, on aimerait bien que les pouvoirs publics soient réceptifs à la démarche des artistes qui disent non à la musique transgénique. C'était histoire de contextualiser, hein. Je ne peux plus m'en empêcher.
Juste un bémol à propos des EPN. Je dois quand même vous signaler que le hasard a fait que Daniel Offray s'imaginait être une de mes vieilles amies et que ça n'a pas suffi pour qu'elle bypasse le verrou mis en place par son adjoint d'IRCAB, qui était, lui, mandaté par le PS d'une manière que je n'ai toujours pas comprise.
Voilà, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions comme Norbert qui souhaiterait intervenir? Bon, bah merci beaucoup d'être venu. C'était la première. Je pense qu'on avance et on va continuer. On sait qu'on a deux autres partis politiques qui vont, avec lesquels on va pouvoir débattre. On remercie beaucoup au Vert d'avoir été les premiers et d'avoir été aussi réactifs.